Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Mila Kouloutou-Koumouli, le président de l'Éveil Océanien. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter votre invitation. Quelques jours après le lancement de votre campagne pour les élections provinciales, c'était samedi à Païta. Mais tout d'abord, un commentaire d'actualité sur l'élargissement du corps électoral au natif. La loi vient d'être validée par le Conseil constitutionnel. Vous étiez favorable à cet ajustement, donc vous êtes plutôt satisfait ?
Extrêmement satisfait de l'intégration des natifs dans le corps électoral pour les élections provinciales. Une injustice réparée. Je rappelle que dans les 10 500 natifs, 80%, près de 8 300 Calédoniens sont nés avant 1998. Et donc les natifs, au sens où ce sont des citoyens calédoniens maintenant nés de parents non citoyens, ça ne concerne que 2000 personnes entre 1998 et 2008. Donc cette injustice a été réparée, c'est une très bonne chose.
Vous n'étiez pas favorable à l'inscription des natifs, des conjoints, pardon. Le texte de loi sur lequel vous êtes proposé, de toute façon, ne concernait que les natifs. Mais si on vous avait proposé les conjoints, vous n'auriez pas approuvé. Hein.
On n'aurait pas approuvé parce que si on regarde l'intégration des non-natifs, ben les non-natifs, il faut prendre, comme je l'ai dit, c'est suffisamment au Congrès, un faisceau de critères qui permettrait aux non-natifs d'intégrer la liste provinciale, de sorte à ce qu'on arrive à déterminer que ces personnes soient durablement installées et qu'ont décidé de faire de la Nouvelle-Calédonie leur terre d'appartenance. Les conjoints en font partie, mais pas que. Personnes qui se sont investies dans la vie calédonienne en termes associatifs, en termes entrepreneuriales, on doit matérialiser ça en termes de faisceau. Alors si on intégrait les conjoints, donc on n'avait pas de discussion politique sur ce sujet, ni de durée de résidence, ni de durée de mariage ou paxage. Dans ce cas-là, on va créer encore une discrimination entre celui qui est arrivé en 1999, qui aujourd'hui ne peut pas intégrer le corps électoral, et les conjoints qui seraient mariés depuis 2 mois. J'extrapole pour dire
fallait,
quand même...
Il fallait 5 ans. Hein. C'était prévu les conjoints qui sont unis depuis 5 ans à un citoyen.
Il n'y a jamais eu de discussion politique dans les visioconférences sur...
Je parle des amendements qui avaient été déposés.
Oui, mais nous, on ne nous a pas posé la question au Congrès. Donc moi, je veux dire, on me pose la question sur les conjoints, il faut déterminer de quoi on parle. Donc les amendements n'ont pas été proposés, mais sur les principes, nous, on était opposés à ça, pas parce qu'on est opposés aux conjoints, mais parce que la grille de lecture pour intégrer les non-natifs doit être différente.
Est-ce qu'il faut dégeler le corps électoral un jour ou est-ce qu'il faut rester en permanence dans ce corps électoral gelé comme il l'est pour l'instant, même s'il y a une petite ouverture avec les natifs ?
Moi, je suis assez respectueux de ce que les uns et les autres ont signé, même si je comprends qu'il y a eu une révision constitutionnelle qui a été faite en 2007. D'autres parlent de manière unilatérale, d'autres parlent que c'était d'un accord commun, des discussions qu'on peut avoir. Moi, je n'y étais pas à ces discussions-là. Je dis simplement que la restriction du corps électoral a un sens dans le sens du référendum, parce que Matignon et Nouméa sont des accords de décolonisation, et dans un accord de décolonisation, il y a deux leviers, un référendum d'autodétermination et un corps électoral associé. Et donc la restriction du corps électoral vient de là. En 98, ils ont décidé de créer une citoyenneté calédonienne qui devait devenir la nationalité avec des critères qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que pour pouvoir voter aux élections provinciales, locales, c'est-à-dire déterminer celles et ceux qui vont décider de la répartition des impôts, de la levée des impôts ou des dépenses, ça me semble assez normal dans les pays du monde entier, qu'il y ait quand même des restrictions, mais pas aussi longues. Donc après plus de 20 ans de l'accord de Nouméa, tout ça doit être ajusté. Malheureusement, on n'y est pas parvenu, parce que la troisième consultation s'est terminée le 12 décembre 2021. Ça fait 5 ans qu'on erre les uns et les autres dans le désert, malgré les promesses électorales qui ont été données avant les provinciales de 2019. Il y a eu une montagne qui a été discutée, et puis finalement, la montagne accouche d'une souris. Mais on s'en réjouit quand même, parce que c'est une injustice qui est réparée. J'espère que les prochaines élections et le nouveau paysage politique pourra traiter la question du corps électoral, mais aussi d'un accord global de décolonisation, parce que les FLNKS, les indépendantistes, a forcément remettront ça sur la table. Est-ce que ce sera Bougival ou ce sera autre chose ? Nul ne pourra le prédire. Ça va dépendre aussi de l'échéance nationale. nouveau président de la République.
En mai 2027.
En mai 2027, donc les choses ne sont pas prêtes d'être terminées.
En attendant, la prochaine échéance, c'est donc le 28 juin, les élections provinciales. Deuxième campagne provinciale pour votre parti, qui avait été créée en 2019, quelques semaines avant le scrutin. Sept ans après, vous êtes plutôt satisfait du bilan de l'éveil océanien, ce qu'on a cru comprendre de ce que vous disiez lors de votre conseil politique qui s'est réuni samedi dernier.
Disons que, pour rester humble, on n'a pas à rougir de ces sept années passées au sein des institutions. Je rappelle que nous sommes que trois élus au Congrès, quatre à la province sud, avec un membre au gouvernement. Je crois que le bilan est plutôt positif. Nous avons porté quand même quelques réformes difficiles, mais nécessaires et fondamentales pour la survie du pays, que ce soit la réforme du RUAM.
Qui n'a pas pu aboutir.
Qui a été adoptée à l'unanimité au Congrès, mais qui a fait l'objet d'une deuxième lecture. Et on voit que depuis 2019, à part la réforme que nous avons proposée, il n'y a rien à l'horizon. Sur la caisse locale des retraites, je rappelle que les retraités étaient menacés de cessation de paiement. Et donc M. Mouliava a fait une réforme qui a été très fortement critiquée et difficile. Néanmoins, ça permet aux retraités de la fonction publique d'avoir encore leur indemnité. Bon, on a travaillé sur logement, l'aide au logement, c'est une réforme que nous avons portée, réforme de la construction. Enfin, sur beaucoup de sujets, je trouve que pour un petit mouvement comme le nôtre, avec très peu d'élus, je trouve qu'au travail accompli, on n'a pas à rougir du travail qui a été le nôtre.
Pas trop déçu par le résultat des municipales, où là quand même vous avez encaissé quelques revers, enfin, vous n'avez pas eu de vraie victoire pour ce scrutin, que ce soit, on pense à Païta, à Dimbéa, au Mont-d'Or.
Écoutez, moi, je peux comprendre cette... j'ai déjà venu évoquer ça avec vous. En termes de voix, c'est vrai que c'est pas la courbe qu'on aurait espérée. On se stabilise néanmoins. Je rappelle qu'en 2019, l'éveil océanien a fait 6077 voix. En 2020, aux élections municipales, on a fait 8000 voix. On s'est présenté dans les communes. Au législatif de 2024, on a fait un peu moins de 12 000 voix, mais ça c'est dans tout le pays. Et donc en province sud, on est à 10 000 voix, et au municipal, on est aussi à 10 000 voix. Donc c'est relatif, je dirais plutôt qu'on stagne autour de 10 000 voix en province sud. C'est le poids électoral de l'éveil océanien en province sud.
Alors il s'est passé beaucoup de choses pendant ce mandat à rallonge, cette année, avec des crises multiples. Quels vont être les grands axes de votre campagne? Ça va être notamment de répondre justement à cette situation créée par les différentes crises traversées par la Calédonie.
Bah écoutez, la situation elle est assez simple. Les extrêmes nous ont mené à la situation du 13 mai. Et le 13 mai a eu des conséquences.
Les extrêmes, ça veut dire que vous rejetez face à face deux blocs qui ont la même responsabilité dans ce qui s'est passé le 13 mai?
Ils ont une responsabilité, c'est pas forcément la même. Je n'irai pas jusque-là, Elisabeth, ça serait injuste de ma part de mettre les deux sur un même pied d'égalité.
Voilà. C'est pour préciser votre propos, puisque vous dites les extrêmes.
Je dis simplement qu'ils ont l'un et l'autre une responsabilité dans ce qu'il s'est passé, plus un côté que l'autre. Mais là n'est pas le sujet. Il y a un problème en Nouvelle-Calédonie, il y a eu les émeutes, les conséquences sur l'économie et donc les conséquences sociales pour notre pays sont extrêmement douloureuses. La crise du 13 mai a révélé en vérité les défaillances de notre pays, de notre architecture économique, fiscale et sociale, qui est en peine depuis bien longtemps. Et en temps de crise, tous ces éléments-là se révèlent. Et donc notre programme à nous, parce que quand on parle d'une élection provinciale, on parle d'abord de politique publique, parce que l'élection provinciale va déterminer le Congrès et donc le gouvernement. Donc ça va déterminer d'une manière définitive notre pays et son architecture. Nous, on a scindé notre programme en plusieurs temporalités, parce qu'il y a des urgences auxquelles il faudra répondre. Sinon, on va se prendre une révolte sociale. Même si les Calédoniens sont assez résilients, les gens ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'avoir un travail. Il faudra prendre des mesures urgentes. en termes de filet social d'abord, en termes de soutien à l'économie au travers de moratoires plutôt sociales que fiscales pour permettre aux entreprises de rester en vie et de continuer à employer des gens. Il faudra axer aussi un axe sur la vie chère. Ça, ce sont les... À mon avis, les premiers sujets qu'il faudra traiter...
Un premier volet social, donc.
Premier volet social, il faudra le mettre en œuvre le plus rapidement possible, entre juillet et septembre, pour éviter que la société calédonienne se fracture encore plus et qu'on arrive à une révolte sociale. Après, il y en aura un deuxième temps où, là aussi, de manière aussi toute urgente, il faudra apporter des solutions urgentes. Je pense au dossier Aircal, qui aujourd'hui est à l'arrêt depuis le transfert de Magenta à Tontouta. Il faut prendre des décisions sérieuses sur Aircal, mais d'une manière plus générale, sur la manière dont les Calédoniens se déplacent dans leur propre pays. Donc il faut un schéma de mobilité, de transport et de continuité territoriale. Sinon, la crise, elle va s'amplifier. Et puis, il y a un autre sujet qui me paraît tout aussi important, qui peut quand même un peu se décaler dans le temps, c'est le sujet de la réforme des retraites de la CAFAT. Il n'a échappé à personne que normalement, ce mois-ci, mois de mai, la trésorerie du régime retraite est asséchée et donc les retraités n'ont plus d'indemnisation. Donc cela concerne 40 000 retraités et les conséquences seraient douloureuses. Je vous imagine, Elisabeth, voir les retraités défiler dans la rue parce qu'ils n'ont plus d'indemnisation. Donc ça, ce sont des sujets qui sont sur le court et le moyen terme. Et puis après, sur le plus long terme, et ça, il faudra décliner sur un ton beaucoup plus long, il faudra revoir l'ensemble des ponts de notre pays. Stratégie transport, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais stratégie aussi économique, en termes de nickel. On a beaucoup de choses à faire en termes de l'administration calédonienne, comment on arrive à trouver des économies dans notre administration. Pareil, parce que si on ne fait pas ces économies, étant donné la situation financière fragile de la France, on va avoir des problèmes dans pas longtemps si tout ça n'est pas reposé correctement sur la table.
Sur le plan institutionnel, est-ce qu'il y a des éléments dans votre programme, une prise de position dans votre programme, où vous dites que la question institutionnelle, il faut attendre après les provinciales éventuellement, voire après mai 2027, comme le disent certains ?
Mais je crois que les Calédoniens savent qui est qui dans l'élection provinciale. En termes de positionnement sur l'avenir institutionnel, il y a d'un côté le FLNKS qui sont sur une souveraineté pleine et entière. On a de l'autre côté le bloc des loyalistes et du Rassemblement qui sont pour le maintien de la République, de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Et puis il y a tout au milieu un bloc central qui pense pas forcément tous la même chose, mais qui dit que cette question-là doit être traitée dans un temps beaucoup plus long, que l'émancipation doit se poursuivre. Nous, on en fait partie, Elisabeth, de ce bloc central, mais le paysage politique qui sera au lendemain du 28 juin ouvrira une nouvelle période de discussion entre les partenaires politiques. Est-ce que ça va changer beaucoup ? Ça va dépendre de celles et ceux qui vont être représentés et représentatifs. Et puis enfin, tout cela va dépendre en vérité de qui il y aura à Paris en termes de président de la République, gouvernement et peut-être le Parlement. Est-ce qu'il y aura des majorités ?
Donc plutôt attendre mai 2027 et l'élection présidentielle avant de...
Non, je ne suis pas de ceux...
Le Premier ministre dit qu'il faut reprendre des discussions juste après les provinciales.
S'il faut reprendre les discussions après, nous on a toujours été ouverts au dialogue, on n'a jamais appliqué la politique de la chaise vide. À chaque fois on a été à l'ensemble des discussions, même des fois on a fait des visios en double parce que certains ne voulaient pas se voir, donc c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Nous, on est déterminés à essayer d'offrir des perspectives à notre pays. C'est plutôt aux autres formations qu'il faut poser la question.
Alors, est-ce que votre liste est constituée pour ces élections provinciales du 28 juin ? Qui va la conduire ? Et est-ce qu'il y aura des listes éveil océanien dans les trois provinces ?
Alors, je réponds à l'envers. Il n'y aura pas de liste éveil océanien dans les trois provinces.
Dans le sud uniquement ?
On va se présenter uniquement dans le sud. J'ai oublié la deuxième question, mais qui va conduire la liste ? Tout ça n'est pas encore terminé, mais le comité directeur m'a m'a désigné pour conduire les opérations des élections provinciales. Il y a de fortes probabilités que ce soit moi, mais on est en discussion, on essaiera de constituer la meilleure liste pour avoir les meilleurs résultats.
Les élus sortants seront tous présents ou est-ce qu'il va y avoir un renouvellement ?
Je vous renvoie à la question précédente.
Il y a des interrogations sur Vaïma Mouliava qui va être nommé, enfin qui a été nommé membre du CESE national. Il peut quand même continuer à avoir un mandat local.
Alors tout le monde s'est posé la question.
C'est pour ça que je vous la pose.
De tous les bords politiques, il n'y a pas d'incompatibilité. Moi, n'est pas le seul élu de la République à être nommé au CESE, comme quoi c'est pas forcément une anomalie. Et donc, s'il n'y a pas d'incompatibilité, il peut figurer sur la liste.
Voilà. Alors, votre liste n'est pas encore constituée. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a encore des discussions avec d'autres mouvements politiques, d'autres listes, d'autres mouvements centristes. On pense à Calédonie Ensemble a l'air d'être parti d'avoir fait sa liste, mais à nous, par exemple, de Philippe Dunoyer, est-ce que vous pourriez travailler avec eux ? Est-ce que vous pourriez faire des listes, une liste avec eux ?
Mais je crois que les discussions, et quand on est... président d'un mouvement, c'est le lot de chaque président d'engager les discussions avec l'ensemble des formations politiques existantes ou en cours de construction. Donc oui, on discute, mais on ne discute pas qu'avec les centristes, on discute avec tout le monde, et tout le monde discute avec tout le monde.
Oui, mais pour faire une liste, j'imagine que vous allez quand même aller chercher plutôt des centristes que chez les Républicains ou chez les FLNKS.
Vous pouvez être étonné des fois des discussions que certains peuvent avoir. Oui, on discute avec tout le monde, mais on discute bien sûr avec celles et ceux qui sont proches du positionnement qui est le nôtre depuis un bon moment déjà. Il n'est pas impossible qu'on arrive à constituer une liste commune. En théorie, tout est possible. En pratique, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et c'est pas la raison principale. Nous, on a encore des discussions en interne, parce que nous, on est un mouvement politique structuré avec des militants, des structures où il y a des discussions, il y a des choix qui sont faits. C'est pas moi qui décide tout seul en tant que président de mouvement, et tout cela prend du temps. Mais c'est nécessaire de prendre du temps. Mais la liste sera bien déposée la semaine prochaine en temps et en heure.
Vous n'avez pas beaucoup de temps, en fait, parce que la liste doit être déposée dans la première semaine du mois de juin.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, quel est le score que vous attendez ? C'est difficile à dire, évidemment. Lors de votre réunion publique, vous avez dit que le centre représentait environ 30 000 voix dans la province sud. Comment les capter et combien peuvent revenir ? Combien peut revendiquer l'éveil océanien ? 10 000, vous disiez, à peu près ?
Nous, on a un socle de voix. Après, ça, c'est pas une science exacte, hein. La politique et puis les élections. Moi, je dis simplement que quand on regarde statistiquement le mandat et le socle de l'éveil océanien, c'est 10 000 voix. Nous, on a identifié 30 000 voix au centre. Comment on arrive à faire le maximum de voix ? Je vais vous donner un secret, Elisabeth, pour faire campagne. Pour avoir un programme, pour avoir une équipe. Il faut avoir beaucoup de conviction et beaucoup de cœur et aller convaincre les gens sur le terrain. Je ne connais pas d'autre méthode que ça pour aller chercher le maximum de voix. Qu'est-ce qu'on espère ? J'ai envie de vous dire qu'on est entre 10 000 et 30 000 voix. Et plus on fera de voix et plus on sera content, parce que ça voudrait dire que le programme et les idées qu'on porte au sein de l'éveil océanien, au sein de cette voie médiane, cette voie centrale, commencent à s'élargir.
Mais vous souhaitez donc un regroupement, parce que 30 000 voix, s'il y a 4 ou 5 listes qui représentent le centre, ça va être compliqué.
Bien sûr, ça n'échappe pas à la règle des élections provinciales. Vous pourrez remarquer qu'en 2019, c'était la même chose. Il y avait les deux blocs, et puis il y avait un centre, et puis il y avait beaucoup de mouvements politiques qui se revendiquaient du centre, qui en avaient marre du oui et du non. Il se trouve qu'il n'y a que l'éveil océanien qui est passé, et donc on est là pour porter cette voie-là, différente de celle des deux blocs. Et donc on a bien conscience que le chemin est étroit, entre les deux blocs, et il l'est encore plus, étant donné qu'il y a beaucoup de monde. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était le cas en 2019 déjà. Peut-être à faire remarquer que la différence qu'il y a entre 2019 et 2026, c'est le seuil. Parce qu'il y avait 108 000 électeurs en 2019, donc les 5%, c'était 5 000 et quelques voix. Là, aujourd'hui, avec l'intégration des natifs et la décision du Conseil constitutionnel, on passe de 117 000. Donc ça, c'était la liste électorale arrêtée au 30 avril par les services du Haut-Commissariat, où on va intégrer les 10 000. Donc, les 10 000 sont répartis entre les trois provinces, mais 90% de ces 10 500 natifs, ils intègrent la liste provinciale sud, ce qui fait monter le barème à 126 000, et donc le seuil, c'est plus 5 000 et quelques, c'est 6 500 voix. Et donc 6 500 voix, c'est pas une paille. Et que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les listes au centre qui ne passeraient pas la barre des 6 500 voix, eh ben ce sont des voix perdues pour le centre. C'est ça qu'il faut retenir.
Alors vous parlez des deux blocs, tout à l'heure vous parliez des deux extrêmes, vous parlez des deux blocs, et effectivement depuis tout au long de ce mandat de 7 ans, l'éveil océanien a joué un rôle charnière avec vos trois élus du Congrès, entre les partisans de la France et les indépendantistes. Alors vous avez d'abord soutenu les loyalistes dans le Sud et les indépendantistes pour le gouvernement. Après, vous avez changé. Vous avez été dans le groupe UCF-LNKS, vous les avez quittés, vous y êtes revenu, vous en êtes reparti. Vous avez fait un intergroupe avec Calédonie Ensemble et vous l'avez quitté. Est-ce que tout ça, quand même, ça manque pas de cohérence politique? Est-ce qu'on peut pas vous reprocher de dire, on sait pas où vous êtes, on sait pas qui vous soutenez, on sait pas ce que vous voulez?
Si vous regardez ce qui s'est passé avec les lunettes du oui et du non, bien sûr que vous ne comprenez rien. Mais il faut s'arrêter deux secondes. Quand on gère les institutions, les collectivités, c'est pas le oui et le non qui sont gérés, c'est des politiques publiques. Donc, si vous voulez comprendre ce qui a été fait, il faut enlever les lunettes du oui et du non et regarder comment on arrive à gouverner un pays. On a essayé, vous l'avez dit, chère Elisabeth, on a essayé de faire avec les non-indépendantistes. Mais on a essayé de construire une majorité, parce que pour gouverner au Congrès ou au gouvernement, il faut une majorité. Donc la majorité, c'était 25 du côté non-indépendantiste. Je ne sais pas si je dois les appeler comme ça, parce que ce n'est pas ça que je regarde. Il y avait 19 voix des loyalistes et 6 voix de Calédonie Ensemble, ça fait 25. Puis nous, on a 3 voix au Congrès, ça fait 28, ça fait la majorité au Congrès. Et donc, on peut dérouler un programme, on peut dérouler des réformes. C'est ce qu'on a essayé de faire entre juin 2019 et février 2021. Est-ce qu'on a réussi à passer des réformes? Non. Pourquoi, Elisabeth? Parce que Calédonie Ensemble n'a pas joué le jeu, c'est la guerre entre l'avenir en confiance, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, avec Calédonie Ensemble. Donc si au bout de quelques mois, on n'arrive pas à passer des réformes, ça ne marche pas. Mais après, ce n'est pas moi qui ai fait tomber le gouvernement. Les indépendantistes ont fait tomber le gouvernement. On n'a pas fait de réforme avec le bloc de droite. On va essayer de faire avec le bloc de gauche. Et c'est là où on a été resté le plus longtemps. Mais je fais fi des indépendantistes parce que, moi, vous savez, nous, les Véhussonnais, on porte plutôt des mesures de politique publique qui sont plutôt ancrées dans les familles politiques de gauche, de sorte à ce que, dans notre ADN, on est plutôt sensible à un meilleur partage de la richesse et donc à essayer d'aider les plus défavorisés. Donc, du côté du bloc de gauche, ils sont aussi sur cette même tendance-là. Donc, on a essayé de construire des choses. Il y a certaines choses qu'on a réussi à construire, et il y en a d'autres où c'était tombé en panne, où il y avait des divergences d'opinion, mais comme dans tout, mais on a essayé de faire fonctionner une majorité dans le pays pour réformer le pays. Il y a certaines réformes qui sont passées ce type-là. La réforme du RIAM est passée justement quand il y avait cette majorité qui existait dans le pays. Et puis en décembre 2024, Calédonie Ensemble fait tomber le gouvernement. Et donc à partir de ce moment-là, il faut discuter pour savoir quel gouvernement on remet en œuvre. Et le choix se porte sur la candidature d'Acide Ponga et qui va s'arrêter le 28 juin prochain. Donc,
Mais vous avez, samedi, vous avez exprimé votre volonté de battre la droite. Oui. La petite phrase a fait du bruit. Hein.
Oui.
Donc ça veut dire que là, vous avez choisi votre camp? Que vous choisirez votre camp dans la prochaine Assemblée, si vous êtes élu?
Ça me semble normal, étant de gauche, de dire que je combats la droite. Le problème, c'est que les gens pensent que je combats les non-indépendantistes, je combats les idées de droite. Pourquoi? Vous savez, Elisabeth, moi, je suis né à Thio, famille ultra, très modeste. Je fais partie de ces jeunes étudiants qui sont venus étudier à Nouméa dans les années 2004-2009. Et si je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, donc j'ai fait une licence de mathématiques et un doctorat de mathématiques, c'est parce que j'ai été aidé très fortement, parce que j'ai commencé mon cursus universitaire pendant le mandat 2004-2009, où on a eu des aides, des bourses, des aides au logement pour les étudiants. Tout ça pour dire qu'au final, en continuant à aider les classes populaires, on arrive à sortir des familles entières de la précarité. Ça, c'est mon histoire. Et je considère que pour sortir ce pays de la situation dans laquelle elle est, il faut continuer à aller dans cette voie-là. Moi, quand je dis que je combats la droite, je combats les idées de la droite, parce que la politique qui est assumée par la province sud aujourd'hui, c'est de faire des économies sur les classes populaires. Moi, je ne peux pas accepter ça, venant de ces milieux-là. Donc, quand je dis que je combats la droite, c'est ça que je combats, et pas autre chose.
Ça veut dire un combat sur le social. La droite, pour vous, c'est les mesures sociales, mais sur l'avenir institutionnel, encore une fois, vous n'êtes ni à droite ni à gauche.
Mais quand je parle de voie médiane, c'est sur l'avenir institutionnel. Mais je veux dire, la politique de la droite, je veux dire, c'est totalement assumé. Je vais revenir à la semaine dernière, sur les bureaux de vote, sur l'avis qui est donné au Congrès. Je dépose un amendement pour demander le rétablissement des bureaux de vote dans tous les quartiers de Nouméa et tous les quartiers de Païta, pour permettre aux personnes des quartiers populaires de pouvoir aller voter sans trop de difficultés les dimanches, puisqu'il n'y a pas de transport de bus scolaire.
Ça, c'est une mesure de gauche.
Ben, en tout cas, les gens de la droite au Congrès ont voté contre. Ils assument totalement le fait que les gens des quartiers populaires doivent se débrouiller pour aller voter. Moi, je peux pas accepter ça. C'est pas possible.
On vous dit que le taux de participation n'a pas évolué, que l'abstention n'a pas été plus forte avec cette répartition des bureaux de vote. C'est pas un argument concret, ça ?
Non, c'est faux, parce qu'il faut comparer les élections qui sont comparables. L'élection municipale, c'est toujours des élections qui sont boudées. Je trouve que l'argument, quand même, est faux. Parce que les gens ne vont pas voter, alors ça ne sert à rien. Donc, du coup, si personne brûle les feux, il faut enlever les feux rouges. Non, mais ça n'a aucun sens. Le secrétaire général du commissariat a dit qu'il faut faire des économies, etc. Le scrutin provincial, Elisabeth, ça fait 7 ans que les Calédoniens l'attendent. Il y aura une très forte mobilisation. Donc j'ai vu qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans la commune de Nouméa. Donc allez voter à Koekara quand vous habitez à Rivière-Salée, mais c'est juste...
Ça y est, c'est supprimé.
Oui, mais on peut faire un effort quand même. Il n'y a que 8 ou 9 bureaux de vote sur les 56 prévus. Je ne demande pas la lune. Je demande un rétablissement. Le regroupement des bureaux de vote, c'était fait pendant la période des émeutes. C'était justifié et justifiable. Là, il n'y a plus rien qui le justifie. Donc, quand l'équipe des loyalistes et du Rassemblement s'oppose à ça, moi, je comprends. C'est une ligne politique qui est totalement assumée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. Il n'y a pas de mal à ne pas être d'accord. C'est bien le débat démocratique, d'ailleurs.
Alors, les loyalistes vous ont quand même reproché, après que vous ayez dit que vous vouliez battre la droite, ils vous ont reproché votre ingratitude en rappelant notamment que c'est grâce à eux, et à leur soutien, en tout cas à leur voix, que Velma Faleo a été élu à la présidence du Congrès.
Je le renvoie...
Alors, est-ce qu'il y a une réalité, là ?
Mais je leur renvoie leur argument. Enfin, ils sont ingrats quand même. Qui a voté Sonia Bakès en 2019 ? Qui a voté Alcide Monga ? Qui a voté Thierry Sontar ? Enfin, je veux dire, c'est un argument qui fait flop. Hein. Je ne comprends pas l'argument.
Comment va se dérouler votre campagne maintenant ? Vous disiez, pour essayer de capter ces 30 000 voix, ça se déterminera par la campagne. Alors, dans votre campagne, qu'est-ce qui va être déterminant ? Qu'est-ce qui va pouvoir convaincre ?
D'abord, le programme qu'on porte, le bilan qu'on porte aussi. Ça me paraît important. Donc les réunions, c'est des réunions classiques. On présente le bilan du parti, parce que c'est présenté à eux en 2019. On vient avec un bilan chiffré, mesuré, évalué. Les gens nous jugent sur ça. Et puis après, on leur dit ce que nous allons faire s'ils nous font confiance. Comment ? On a attaqué la campagne sur le Mandor. Donc cette semaine, depuis lundi, on attaque toute la commune du Mandor. On fera un meeting demain soir donc c'est au culturel du Mandor à Boulari. Et donc à partir de la semaine prochaine, on sera dans la commune de Dembéa pendant une semaine, du lundi au dimanche. Ensuite, on ira à Nouméa, pareil, du lundi au dimanche. Et puis on ira sur Païta entre la semaine qui se finit le samedi ou le dimanche 21 juin. Il restera encore une semaine, donc on profitera de cette semaine pour aller à Yaté, à Thio, à Bouraille et La Foy, dans les communes du centre, pour aller convaincre.
À votre création, on vous a beaucoup reproché d'être un mouvement communautariste. Votre campagne, elle s'adresse essentiellement à la communauté wallisienne et futunienne ou au-delà ?
Je ne sais pas, je vais dire ça combien de fois. Mais bon, c'est le problème des étiquettes. J'ai fait une liste où il n'y avait que des Wallisiens et des Futuniens. Je n'ai jamais dit que le mouvement était un mouvement communautaire, sinon je ne l'aurais pas appelé l'éveil océanien. L'éveil océanien, c'est beaucoup plus large que ça. Je crois avoir démontré quand même depuis 2020 et 2024 et 2026 que ce n'est pas le cas. Mais bon, j'attends de voir les listes des autres pour savoir, puis on va reparler de qui fait du communautarisme dans notre pays. Moi, je tiens juste à rappeler, ma chère Elisabeth, qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je vois les boules puantes du côté des loyalistes qui font faire des vidéos par mes compatriotes en disant que la troisième voie n'existe pas. Il n'y a pas un média, il n'y a rien, personne qui dit rien sur ces pratiques-là, qui, à mon avis, sont plus graves que de m'accuser de dire que je combats la droite. Ça, c'est insultant. Et pourtant, c'est des pratiques qui sont là depuis toujours. Je laisserai les Calédoniens et les gens de la communauté décider du sort de ces pratiques.
Pour conclure, Mila Kolotokoumouli, en 2019, vous nous aviez étonné. Vous êtes diplômé en mathématiques, vous le rappeliez, mais vous aviez prédit combien de... Peut-être pas combien de voix, mais combien de sièges vous aurez. Et là, en 2026, est-ce que vous pouvez nous dire quel résultat vous allez faire ?
Bon, 2019, c'était pas difficile, parce que dès qu'on passait la barre, le seuil, on participait à la répartition des sièges, et on faisait au minimum 3 sièges. Dieu merci, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est difficile de prédire, parce que ça va dépendre du nombre de listes qui va passer. L'objectif pour nous, c'est de faire 10 sièges en province sud. C'est ça, les objectifs.
10 sièges.
10 sièges en province sud, c'est l'objectif.
C'est ambitieux.
Il faut être ambitieux dans la vie, Elisabeth. Posant des objectifs assez élevés, on arrive à arriver pas très loin. Ce sont les objectifs. On verra après ce qui va se passer sur le terrain. Encore une fois, c'est pas impossible, parce que ça va dépendre, en fait, des listes qui passent la barre. Parce que moins il y a de listes qui passent la barre, plus la répartition est généreuse. Donc c'est pas totalement... fou ce que je raconte. Vous m'avez posé la question, voici ma réponse.
Et au Congrès ?
Si vous avez 10 sièges au Congrès, vous avez entre 7 et 8 au Congrès. Ça nous permettrait d'être un groupe, et c'est un objectif important pour nous.
Merci en tout cas pour ces précisions. Bon, on retient les chiffres, on verra le 28 juin au soir si les chiffres vous en donnent raison.
C'est un objectif, c'est pas une prédiction.
Absolument, on le prend bien comme ça. Merci Mila Kolotokoumouli d'avoir accepté notre invitation. La fin de ce magazine Transparence.